RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Sergi Darder et de Yanis Taffer, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actualité de l'OL avec aujourd'hui coach Courbis. Salut Roland.
Salut les amis.
Et avec Edouard G qui est à Lyon. Salut Edouard.
Salut Gilbert, salut coach. Bonsoir à tous. Salut.
Alors l'évaluation traditionnelle, bien sûr, après le match face à Nice et puis des débats comme toutes les semaines. Est-ce que désormais on peut penser que l'OL est vraiment lancé pour de bon après cette victoire? Et puis retour du coup sur le petit mercato de fin janvier express de l'OL, parce qu'on constate que peut-être que finalement c'était un mercato réussi. On va en parler tout de suite dans le podcast After Lyon et on démarre par l'évaluation.
Les bolides sont du côté de Lyon.
Eh oui, ça c'est pour le taulier, hein, vous avez l'habitude maintenant. Edouard, bon, là il y a pas mal de tauliers du coup.
Ouais, il y avait pas mal de tauliers, de bolides. J'ai failli vous mettre Maxence Cracré.
Sans blague.
Mais j'ai préféré mettre Tanguy Ndombele parce que je trouve qu'il a vraiment fait un grand, grand match. On l'a retrouvé tel qu'on l'avait perdu.
Il n'y a pas de période d'adaptation, comme on dit.
Non. Alors lui, aucune. Alors justement, il l'explique après en conférence de presse, pas en conférence de presse, mais en interview, que voilà, il y a notamment avec Maxence Cacré un bon lien qui a débuté quand Maxence Cacré finissait sa formation, qu'il arrivait dans le groupe pro et que lui était encore là. Et puis, ça me permet, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait en conférence de presse, il avait eu un petit lapsus, il avait dit je suis là pour perforer, alors que bien évidemment on a compris, il était là pour performer, mais finalement on l'a vu qu'il a perforé, il a beaucoup perforé ce samedi, parce que toutes ces passes laser, ces passes devant, ça joue, c'est franchement, il est incroyable, quoi. Il est vraiment au-dessus du lot. Et puis, il a amené toute la fluidité, tout le plus une diversité au milieu de terrain, la puissance. Voilà, il était un petit peu partout, mais c'est vrai qu'on aurait pu citer d'autres. Mais bon, il faut quand même citer Tanguy Ndombele.
Coach,
si tu veux, je crois me rappeler quand même que ce joueur qui a été très très bon, c'est pas la première fois qu'on le voit très très bon, mais je crois que son gros défaut, et j'espère qu'il a progressé là-dessus, c'est la régularité. Donc j'attends de voir maintenant la confirmation que c'est pas un match comme ça qui va après passer dans un match moyen, et après un très bon match, et après un match moyen. J'attends avec impatience de le voir régulièrement, je dirais pas à tous les matchs, mais 8 à 9 fois sur 10, comme on a pu le voir l'autre soir. Et moi, pour ce qui est des tauliers ou des tops, je suis impressionné par cet arrière central. Cacré, maintenant, il nous a habitués. Et lui, par contre, régulier, il est. Donc, cet arrière central, sincèrement, quand on peut faire la comparaison à Lyon avec... comment il s'appelle ?
Samuel Umtiti.
Mais il est nettement meilleur qu'Umtiti pour moi. Et en plus de ça, tu n'as pas l'impression qu'il a 19 ans. Il joue comme un vieux briscard. Et quand je vois la charnière avec Thiago Mendes est précieux parce qu'il pourra dépanner à ce poste-là et au milieu aussi, parce qu'on ne va pas non plus demander à Cacré et à Ndombele d'être tous les deux à jouer 93 minutes de tous les matchs. Et quand je m'imagine un Donnayer en forme avec Loukeba, c'est là de charnière, excuse-moi, mais je serais Boateng, je ferais quand même gaffe.
Oui, alors d'ailleurs, c'était pas forcément prévu au programme, mais enfin, on peut détailler un peu là-dessus. J'imagine que sur Loukeba, Edouard, tu valides ce que dit Roland.
Oui, justement, j'avais noté que, et coach, tu me devances et tu confirmes ce que certains pensent, c'est qu'il est en avance par rapport à Samuel Umtiti au même âge qu'on fêtait. Franchement, il est bluffant, parce que là, il est rentré dans l'équipe, alors un petit peu au mois d'août, puis après, il avait disparu, parce qu'il fallait mettre Boateng, parce qu'il y avait Da Silva, parce qu'il y avait Denayer. Et puis finalement, dans la hiérarchie, désormais, il est clairement le numéro 1, et il enchaîne depuis le mois de décembre, depuis le match de face à Bordeaux, 9 match de suite, et pour l'instant sa seule défaite c'est du côté de Monaco. Mais franchement, les passes claquées vers l'avant, son jeu vertical, son sang-froid, sa sérénité,
sens de l'anticipation et tout, c'est
incroyable. Et puis c'est lui, n'oublions pas que c'est lui qui amène le pénalty, hein. C'est lui qui est aux avant-postes, donc le pénalty pour Lyon hein, face à Nice. Donc ça veut dire qu'il est dans le coup à ce niveau-là. Et je vous conseille, alors je me fais une petite mue, mais j'ai fait un petit portrait de lui sur notre site internet en allant notamment du côté de l'Olympique Saint-Genis-Laval, parce qu'il est originaire de là-bas, Castello Junior, ce qu'il faut l'appeler Castello Junior désormais. Un petit peu comme Memphis Depay, un petit peu en froid avec son papa, donc il faut moins parler de Lukeba, mais plutôt de Castello Junior. Ce jeune gamin frêle qu'un certain Maurice Genetti a vu arriver en U8, U9 dans ce club avec Jérôme Guichard, qui est le directeur technique de ce club, et puis ils ont tout de suite vu une perle, ils l'ont tout de suite signalé à l'OL. Il est arrivé en 2011 à 9 ans à l'OL, et puis derrière il a eu l'humilité, il a eu l'apprentissage, il a eu cette sérénité, et puis surtout de la patience, parce que justement, c'est ce que me disait Jean-François Vuillet, vous pouvez retrouver tout ça sur le site, mais juste une phrase, et notamment cette patience. Il n'était pas parmi les joueurs surclassés, jamais il était surclassé. Il était toujours dans le deuxième tiers, on va dire, des joueurs, et pas forcément à un moment donné, peut-être qu'il allait percer à l'OL, sauf qu'en U16, voilà, il a eu, à 15-16 ans, il a eu la bonne croissance, et puis derrière, il a eu cette patience avec sa maman infirmière qui l'a bien suivi tout le temps, qui l'a emmené aux entraînements, patiemment de s'installer au centre de formation. Il est international, et puis quand on lui a donné sa chance en pro, il est en train de la saisir. Et là, on se demande même si un de ces jours, il ne va pas y avoir un gros chèque pour lui du côté de l'OL. Alors
Ah
peut-être
oui,
pas
mais
cet été, mais l'été prochain,
il
qu'on
va
fait.
surtout y avoir peut-être un gros coup de téléphone d'un sélectionneur.
Oui, aussi, ouais, parce que là,
Ah,
franchement,
carrément,
il
Roland.
est
Toi, tu le vois
bluffant. Ah
là.
ben, je vais te dire un truc, s'il confirme comme ça dans la régularité, parce que la régularité, on le voit pour un Ndombélé, c'est quand même aussi une qualité pour un joueur. Si jamais il a celle-là de qualité, qui confirme ce qu'on a vu l'autre soir, mais un joueur qui donne satisfaction, là, Koundé, qui est parti de Bordeaux à Séville, qui a fait ses progrès, qui a intégré l'équipe de France, mais tu m'expliqueras quand il est meilleur que Lukoba? Que Lukeba.
Ouais. Oui. Non, mais alors, ça veut dire que pour toi, la charnière idéale, là, c'est Lukeba Denayer.
Ah, bah oui. Et Boateng, il est
Ouais,
marrant,
justement.
il est marrant ce Boateng, parce que déjà, il préfère jouer, paraît-il, à deux arrières centraux. Mais si je suis entraîneur, lui, dans l'un de mes deux arrières centraux, mais j'ai peur tout le match.
Et je le prends pas.
Donc, si tu veux, je dis, écoute, viens à côté de moi sur le banc, là, et on va regarder un petit peu les deux arrières centraux, mais heureusement, tu n'y es pas.
Et Castello Lukeba, n'oublions pas qu'il a marqué aussi un but hein, face à Metz au mois de décembre. D'ailleurs, ce jour-là, il avait invité son entraîneur, son premier entraîneur, Maurice Genetier, comme quoi il y a des fois des petits symboles qui sont assez marrants. Mais franchement, ce gamin est bluffant. Alors certes, il est très timide, mais alors sur le terrain, sa timidité, ça se voit
Alors,
pas.
pour en revenir au boulot et au choix de Peter Boss, je pense que Boateng, qui est quand même quelqu'un d'important dans le groupe, contrairement à ce qu'il peut penser de lui, tu es obligé pratiquement, si tu veux faire jouer Boateng, de jouer que trois arrières centraux et de mettre Boateng, allez, au milieu des trois arrières centraux, parce que Boateng, arrière central d'une organisation à deux arrières centraux avec Dubois qui est moyen défensivement, eh bien, sincèrement, je ne le vois pas.
Mais sauf que la Boateng, peut-être qu'il n'y aura plus.
Ah mais
En tout cas, il a été écarté ce week-end.
Ah oui.
Mais
Parce qu'elle a été écartée, l'équipe fait un super match et tout, en général.
mais en plus de ça, un super match et à son poste aussi, parce que Thiago Mendes, à ce poste-là, qui n'est pas son véritable poste, ben il peut dépanner, mais dépanner comme ça, c'est un drôle de dépanneur. Et tu as Denayer, qui en pleine forme est difficile quand même à évincer. Donc
Et
ça
c'est
fait
Nali
que.
demandé.
Ça fait que. Hein?
Et Sinali demandé aussi, hein,
Oui,
comme défenseur
il y
central.
a celui-là aussi. Donc ça fait quand même un effectif. Quand on regarde l'effectif de A à Z, du gardien jusqu'aux attaquants, excusez-moi, mais cet effectif-là, il fait peur.
Bon, sur Boateng, pas plus d'infos, Edouard
Non, pour l'instant, en ce lundi, on n'a pas plus d'infos sur une éviction temporaire sur ce match-là. Est-ce que ça va être comme Marcelo? A priori, quand même pas. Hein. Souvenons-nous, à
Ouais.
mi-août, parce que Marcelo n'était pas quelque part l'homme de Peter Bosz. Là, Jérôme Boateng, on peut quand même se souvenir que c'est lui qui l'a appelé le 31 août pour qu'il vienne. Donc, on ne peut pas passer de préféré à pestiféré comme ça en quelques jours. Mais c'est vrai que l'homme est un petit peu sur les nerfs dans sa vie personnelle. Donc, ça se voit sur le terrain et d'abord sur le vestiaire.
Allez, on passe au boulet.
C'était un guignol.
Voilà, c'est un guignol. Alors, difficile de trouver un boulet sur le terrain, Edouard. Ouais. Mais j'aimerais qu'on parle, peut-être qu'on les désignera boulet, des supporters lyonnais qui avaient bien préparé une sorte d'hommage ou de message concernant Juninho, chant, banderole. En gros, le départ de Juninho, on sent que ça a du mal à passer quand même, hein, dans les tribunes.
Oui, ça a du mal à passer. Alors, il y a les banderoles, il y a tout ce côté légende du joueur. Concernant l'aspect directeur sportif qu'il était, alors il y a les banderoles, mais il y a aussi les paroles des capots, et notamment du côté du virage nord, comme virage nord, on disait peu importe si on lui a mis des bâtons dans les roues ou s'il était incompétent, il est revenu avec son amour pour l'OL, et ce qui dérange, c'est qu'il soit parti dans l'indifférence. Donc voilà, on commence un petit peu à différencier la légende, le joueur, ça reste et ça restera. Eh bien, peut-être qu'au niveau directeur sportif, ce n'était pas forcément le cadre qu'attendait le board. Et pourquoi pas, à un moment donné, on a mis Vincent Ponceau, hein, voilà, parce qu'il fallait peut-être remplir quelques brèches.
Les supporters sont peut-être encore un peu aveuglés par le Juninho joueur, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, on peut être très très bon joueur et peut-être moins bon directeur sportif, il faut l'accepter, mais c'est pas parce que tu as été moins bon directeur sportif qu'il faut oublier la légende. Et pour moi, je ne l'oublie pas, mais j'ai noté, on en a beaucoup parlé, quelques insuffisances à un moment donné. Il faut être froid, il faut savoir dire les choses. Et en conférence de presse, que ce soit Bruno Chéroux est revenu en avant-poste, Vincent Ponceau l'a dit, voilà, on est revenu à un travail un petit peu collégial. Voilà. Donc, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Et ce mercato a été fait de façon collégiale. Comme quoi, voilà. Mais il faut. L'info commence un petit peu à fuser. En fait, on commence à comprendre. Mais il faut vraiment. C'est pas parce que la greffe n'a pas pris en tant que directeur sportif que ça emporte tout le reste de l'histoire. Et c'est ce que certains supporters ont voulu quand même faire passer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de communiqué pour sa sortie. Mais bon. Quand Bruno Chéroux est arrivé en juillet 2020, il n'y a pas eu de communiqué de presse pour qu'il arrive. Hein. Voilà, donc le FC communiqué de presse, à ce moment-là, il n'y en a pas eu, quoi, en fait.
Voilà. Roland, tu veux rajouter un truc sur Juninho?
Dans le sens que les supporters de Lyon, qui puissent se rappeler et avoir une certaine nostalgie et reconnaissance du joueur qui a été Juninho, mais ça, évidemment. Mais par contre, il y a des choses qui nous échappent quand même. Est-ce que Juninho a pensé que son départ allait quand même perturber une période? Et est-ce qu'il y avait vraiment l'obligation de partir maintenant plutôt que d'annoncer un éventuel départ au mois de juin? Et je crois qu'en plus de ça, il annonce ça dans la semaine où il y a eu la bouteille là.
C'était après Rennes. Après le 4-1 de Rennes, il a fait ça. C'était dans la semaine qui précédait le match de Marseille.
Eh bien voilà, c'est ce que je te dis. Ouais, donc si tu veux, derrière ça, il y a eu ce match de Marseille qui, évidemment, s'est mal passé. Derrière ça, il y a eu Paris Football Club Lyon. Toutes des coïncidences. Sincèrement, je n'ai toujours pas compris le besoin de Juninho de partir à ce moment-là. Il y a des choses qui nous échappent, et comme il y a des choses qui certainement nous échappent, ben on peut pas en parler.
Passons à la suite, parce qu'il nous reste peu de temps, et j'aimerais quand même qu'on parle de la suite. Vu le match de samedi, il y a quand même de belles promesses. Alors, avant que vous donniez votre avis, on va écouter Christophe Galtier, qu'Edouard a vu donc après le match, bien sûr. Écoutez ce qu'il dit, est-ce que ça en dit long quand même sur les possibilités lyonnaises?
Le constat de ce match-là, c'est que le très haut niveau, c'est ça. Sans rien reprocher à l'ensemble de mes joueurs, il faut retenir ce qu'est le très haut niveau, et Lyon nous l'a démontré ce soir.
Voilà. Donc,
je peux vous dire une confidence, parce qu'on s'est rencontrés après, et je lui dis, mais est-ce que tu t'es trompé dans ta compo? Tout simplement parce que voilà, là, entre mercredi et samedi, c'était presque les mêmes joueurs entre le match de Coupe de France et le match à Lyon. Il m'a dit non. Mais quand Lyon joue à ce niveau, Lyon est injouable.
Ben, si tu veux, je suis d'accord avec lui, mais de ne pas avoir précisé qu'éventuellement, le fait d'avoir joué un match vraiment énorme le mercredi avec des émotions énormes et se taper ce Lyon-là 3 jours après, c'est sûr que c'était mission impossible. Mais je pense que contrairement à ce que des fois j'entends, ce calendrier-là n'était pas évident pour les Niçois, mais d'insister là-dessus, ça enlèverait le mérite des Lyonnais. Donc je pense que Christophe a été très adroit de donner cette précision, parce que effectivement ce match de Lyon était assez impressionnant.
Du coup, toi, par hasard, il est toujours très adroit quand c'est face à Lyon. Hein.
Du coup, toi, Roland, là, tu sens que ce match peut être le match qui va lancer l'OL, peut-être, je sais pas, vers le podium, parce qu'après tout, tout est encore possible.
Il y a le match et le mercato qui vient de se passer. J'ai rarement vu un mercato aussi réussi, que ce soit sur le plan sportif, que sur le plan financier. Quand on faisait des débats, bon, c'est sûr que les débats, ils sont toujours amusants, sur le fait, est-ce qu'on laisse partir ou pas Guimarães? Mais déjà, premièrement, si Guimarães, il a envie de partir, mais tu ne peux pas le retenir.
Oui, et puis en plus, vu le prix...
Quand on le paye 4 fois plus que ce qu'il gagne. Et ensuite, tu récupères de l'argent, tu en gardes un petit peu, et tu retrouves Ndombele pour les 4 mois qui a joué, qui ne va pas avoir de problème d'adaptation. Le problème de Ndombele, pour moi, c'est sa régularité dans les performances. Derrière, tu prends Fèvre, avec un contrat de 4 ou 5 ans, qui pour moi, avec une marge de progression intéressante, un joueur très intéressant et un futur joueur peut-être très, très intéressant. Tu te sépares du salaire de Slimani.
De Marcelo, de Shaqiri.
De Marcelo. Shaqiri, tu as fait une connerie, ben tu récupères tes 7 millions de ta connerie et tu lui dis ben, merci d'avoir fait ce but contre Marseille et d'avoir fait marquer aussi le but de la victoire. Et là, maintenant, je suis désolé, je rappellerai et je ne fais que le rappeler. Que j'ai l'impression, quand j'entends parler d'ultimatum pour Peter Bosz, Marseille, etc., j'ai l'impression que dans la première partie du championnat, la qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League, c'était notre entraîneur que Peter Bosz qui l'avait faite. Quand je vois, par exemple, du côté de Marseille, qui aujourd'hui, Marseille est second, et qu'on tombe dans ce groupe, le groupe de la mort. La mort de quoi ? Galatasaray, 12e du championnat turc, le Lazio de Rome, qui n'est pas dans les 5 premiers et tout. Et on se tape maintenant du côté de Marseille cette coupe ridicule de conférence qui va peut-être te fatiguer les joueurs ou t'augmenter le risque de blessure et peut-être la possibilité de rater le podium. Non, sincèrement, Lyon... Pour le moment, malgré 2-3 matchs, et notamment le match aller contre Nice, et évidemment le match contre Marseille avec cette bouteille sur Payet, on a un Lyon qui, pour le moment, bégaye un peu. Mais il reste encore 42 points à distribuer.
Et rappelons qu'il n'y a jamais eu vraiment d'ultimatum. Hein, c'était juste une interprétation d'une réponse du président par rapport au calendrier du mois de février. On rappelle 13 points sur 18 possibles en 2022 et l'OL qui s'est rapproché à 5 points du podium alors qu'avant Noël, ils étaient à 11, donc à 9 points. Donc c'est déjà un beau rapproché alors qu'il y aurait encore les 3/4 de cette deuxième partie de saison à faire. Donc il y a de quoi faire. Match à Lens ce week-end, match à Lille face à Lille le week-end prochain. Je voulais juste finir sur Geoffrey Ndelaïde que l'on a revu avec la réserve ce week-end face à Saint-Priest, 45 minutes fort intéressantes.
Je l'avais oublié,
de Gaïda Fofana et de Jérémy Bréchet. Il va refaire un match la semaine prochaine, mais un match complet, et puis ensuite il pourra peut-être postuler dans le groupe et sortir enfin du tunnel. Et voilà aussi dans ce mercato une autre possibilité pour Peter Bosz.
Merci Edouard, merci Roland. Prochain podcast,
salut,
After Lyon, lundi prochain bien sûr, bye bye.
RMC
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.